Et nous, ce soir, comme tous les mercredis, c'est la pleine lune, le rendez-vous des femmes qui bougent. Donc nous émettons tous les mercredis soirs, depuis le début de l'année. Vous pouvez nous téléphoner au 20 01 93 en faisant le préfixe 023 depuis Genève. Et nous vous souhaitons une bonne soirée sur la pleine lune sur Radio Zone.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait.
Donc la pleine lune, ce soir, comme tous les mercredis soirs, le rendez-vous des femmes qui bougent. Ce soir, nous avons invité dans les studios de la pleine lune le comité contre le viol, un groupe de femmes qui s'est organisé sur Genève pour lutter contre les violences faites aux femmes. Mais avant d'entamer la discussion avec le comité contre le viol, quelques informations. Alors, cette semaine, il ne se passe pas énormément de choses à Genève. En tout cas, nous, on n'a pas beaucoup d'informations. Quelques rendez-vous ce soir à 20h30, donc mercredi 16 à 20h30. Il y a à la résidence universitaire de l'IUED, je ne sais pas du tout ce que c'est, au 63 rue des Paquis, un meeting de solidarité pour réclamer le retrait des forces israéliennes du Liban et une aide directe et officielle de la Suisse au Croissant-Rouge palestinien. Ce meeting, comme la manifestation qui a eu lieu déjà à Genève le lundi, est organisé par l'association Suisse-Palestine. Samedi à 19h, il y aura une grande fête populaire aux Eaux Vives. C'est la saison des fêtes des quartiers et donc cette fois-ci, c'est le quartier des Eaux Vives qui aura donc sa fête le samedi 19h à partir de 15h avec des concerts, du théâtre, des stands, des buvettes. 4 rues seront fermées à la circulation et accueilleront les piétons avec plaisir. Quelques autres informations internationales. Nous avons envie de parler d'une immense manifestation qui a eu lieu à New York. C'est pas tout près, mais c'est quand même très important, puisque c'est la plus grande manifestation qui a jamais eu à New York et qui a réuni 600, 800 000, peut-être même 1 million de personnes qui ont marché pour réclamer le désarmement et pour appeler à la paix. Il y avait des groupes qui sont venus aussi d'autres pays, du Canada, de la Hollande, de la Suède, de la Norvège, et des groupes de tous les horizons politiques et religieux qui sont venus défiler à New York au cri de « geler, geler, geler la course aux armements nucléaires ». Donc c'était la plus grande manifestation qui a jamais eu lieu à New York, et bien entendu, la presse genevoise n'en a pas parlé. Sur le front du logement, rien de très changé cette semaine. L'occupation à la rue du Conseil général continue. Le squat s'organise. Il y a plusieurs étages se sont meublés, se sont installés. Et il y a entre autres, et c'est ce qui nous plaît beaucoup, un groupe de femmes qui s'est installé au dernier étage et qui a créé le squat femme. À ce propos, il y a une réunion du squat femme ce soir à la rue du Conseil Général à 20h30 pour discuter. Pour discuter du squat femme. Il paraît qu'il y a des petits problèmes techniques. Il semble, on vient de nous téléphoner qu'il y a des petits problèmes techniques, il semble qu'on nous entend mal. Le squat femme. Le squat femme, ça marche? Bon, il semble qu'il y ait des petits problèmes techniques, des gens ne nous entendent pas bien. Parfois, notre radio a beaucoup de problèmes techniques. D'ailleurs, on pourra en reparler puisque, justement, nous avons besoin d'argent pour pouvoir nous installer mieux. Donc, je re-annonce. Je renonce donc cette soirée qui, ce soir, donc, j'ai perdu le fil, je m'excuse, on vient de m'interrompre, on m'interrompt trop souvent. Alors, donc, je recommence. À la rue du Conseil Général, donc, qui est occupée depuis bientôt 2 semaines, s'est organisé un squat femme. Donc, tout un étage a été pris par des femmes qui veulent vivre ensemble et qui veulent justement afficher un nouveau mode de vie et organiser des nouveaux contacts entre elles. Et c'est pour ça qu'elles occupent tout un étage et elles appellent ce soir à une réunion pour discuter de ce squat femme. Cette réunion se tient donc à la rue du Conseil Général, dans la maison occupée, pour discuter de l'organisation de ce squat et d'autres problèmes reliés à cette occupation. Toujours en parlant du logement, les régies semblent prendre la mouche et commence à vider des gens pour des prétextes les plus futiles et bizarres. Il semble qu'une femme s'est fait donner son congé parce que elle avait soutenu l'occupation au 34 rue de Montoux. Elle avait signé une lettre, donc elle était locataire de cet immeuble, elle avait signé une lettre soutenant cette occupation et elle a reçu immédiatement son congé donné par la régie burgère qui lui a intimement l'ordre de sortir de l'appartement dans les 2 jours. Comme on voit, les régies sont de plus en plus sympathiques. Qu'est-ce qu'on peut donner encore comme nouvelle? Nous sommes en tout cas très contentes qu'il ait plu pendant tout le week-end sur les clés de Saint-Pierre, que les bourgeois étaient allègrement mouillés. Nous espérons pourtant qu'il fera beau la semaine prochaine pour le bois de la bâtie et nous espérons que Radio Zone va réémettre une partie des concerts du bois de la bâtie. Voilà, c'est quelques informations très brèves et un peu décousues. Et maintenant, nous allons donc parler avec le comité contre le viol. Si on lit les journaux ces temps, il y a eu plusieurs titres qui nous ont fait très mal, nous les femmes. Une femme s'est fait violer par un homme pendant que la copine de cet homme accouchait. Une femme d'un certain âge s'est fait violer par 2 hommes sous pendant qu'elle rentrait chez elle. Une fille mineure un attentat à la pudeur sur une jeune fille mineure, et le journal signale que le crime qu'elle avait commis, c'est qu'elle était trop jolie, et ainsi de suite. Donc des histoires de viol tout le temps, tous les jours, et c'est une des raisons qui nous a donné envie de discuter avec le comité contre le viol.
Thank you.
Nous avons donc accueilli dans le studio de Radio Zone et de la Pleine Lune le comité contre le viol, avec lesquels nous avons envie de discuter pour savoir comment elles se sont organisées, quelles sont leurs actions, quels sont leurs bilans sur une année d'action. Vous pouvez bien sûr nous téléphoner pendant toute l'émission au 20 01 93 023 depuis Genève si vous avez des témoignages à raconter, si vous avez des informations à donner, si vous avez des informations à demander aussi aux femmes du comité contre le viol ou si vous avez quelques commentaires qui soient. Donc vous pouvez nous téléphoner pendant l'émission. Si possible, pour des raisons techniques, téléphonez-nous pendant qu'il y a la musique. Nous ne sommes pas assez nombreuses, en tout cas comme techniciennes, au studio pour pouvoir à la fois parler, à la fois répondre au téléphone. Alors, pendant la musique, téléphonez au 20 01 93 023 depuis Genève. Alors, le comité contre le viol s'est formé, donc il y a plus, je crois, il y a environ une année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis comment il s'est formé et quels sont un peu les buts de ce comité?
Bon, alors, à l'origine du comité, c'est l'affaire de Prenaville qui a eu lieu en octobre 81. Deux occupantes agressées et violées par une quinzaine de personnes, membres de la bande des Pharaons, dont trois femmes. On reviendra sur cette affaire tout à l'heure. Cette affaire a suscité un large mouvement d'indignation qui aboutit à la manifestation de soutien du 12 novembre, dénonçant l'attitude de la justice dans cette affaire, demandant que le viol soit reconnu comme un crime, condamné comme la violence la plus grave faite aux femmes et reconnu comme un crime d'autant plus grave qu'il est commis en bande. À la suite de la manifestation, un meeting était largement convoqué a eu lieu et c'est à l'issue de ce meeting que le comité contre le viol s'est créé avec plusieurs objectifs. D'abord, accueillir les femmes violées, les aider à sortir de leur silence, écouter ce qu'elles ont à dire sur ce qui leur est arrivé, les soutenir dans l'action qu'elles choisiraient de, la réponse qu'elles choisiraient de donner, les soutenir y compris financièrement. si elles décident de déposer plainte, exercer un contrôle sur le procès, dénoncer et mener une réflexion sur les rapports sociaux qui permettent d'aboutir au viol, c'est-à-dire l'éducation, la sexualité, la culture, la publicité, la pornographie, etc. Organiser des débats sur ces questions pour essayer de trouver des moyens d'action qui pourraient amener un changement des mentalités, un changement des rapports entre les hommes et les femmes. Actuellement, le comité fonctionne tous les jeudis au Centre Femmes à 21h.
Vous tenez donc une permanence au Centre Femmes une fois par semaine où des femmes qui ont subi une agression, un viol, peuvent venir discuter avec vous pour trouver ensemble des manières d'agir.
C'est ça.
Et comment marchent ces permanences?
Bien, ces permanences, évidemment, sont tributaires, en fait, du nombre de personnes qui se sentent motivées pour les tenir. Mais d'une manière générale, on peut dire qu'il y a à peu près toujours un minimum de 6 femmes et que bien souvent, on se trouve à peu près une vingtaine. Il n'y a pas toujours, pour l'instant d'ailleurs, il y a même très souvent personne qui vient et personne qui téléphone. Donc en même temps, cette permanence est un lieu de discussion pour les femmes qui participent aux actions du comité contre le viol. Et bon, le jour où, le cas où une femme se présente et ou vient pour nous parler d'une histoire qui lui est arrivée récemment ou d'une histoire qui lui est arrivée il y a X temps, etc., c'est clair que la séance à ce moment-là est consacrée à l'histoire de cette femme et non plus tellement aux problèmes généraux qu'on discute habituellement. Bon, évidemment, toute histoire, même personnelle, s'inscrit dans les problèmes généraux, mais enfin, à ce moment-là, c'est véritablement une permanence, c'est-à-dire qu'on essaie de voir comment réagir et quoi proposer.
Mais vous dites que vous voulez, donc pendant ces discussions, vous essayez de mettre sur pied des manières de lutter concrètement contre les agressions faites aux femmes, les viols, les violences et le sexisme qui est sous-jacent de fait à cette violence et à ces viols qui sont un peu les points critiques du sexisme ordinaire. Est-ce que vous avez parlé d'un meeting, vous pouvez peut-être parler de ce premier meeting que vous avez organisé et quels sont les points qui sont sortis de ce meeting qui ont un peu et qui ont été le point de départ du comité contre le viol.
Une bonne question. C'est pas ça le problème, c'est qu'en fait, peut-être ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir de ce meeting, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées par le comité contre le viol. Il y a il y a un certain nombre d'actions aussi. Par exemple, une femme, quelque temps après l'histoire de Prenaville, une femme s'est adressée à nous parce qu'elle avait été tabassée de nouveau par une bande de loubards qui petit à petit s'est révélée être d'ailleurs également des pharaons ou proches des pharaons, toujours les mêmes. Et à partir de là, par exemple, le comité contre le viol a discuté avec la femme de savoir ce qu'elle voulait faire. Est-ce qu'elle voulait déposer plainte ou pas, ce qui est toujours un problème important, parce qu'actuellement, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Et dans le cas où elle déposait plainte, d'ailleurs, ce qu'elle avait fait spontanément elle-même, déjà, avant de venir nous voir, comment est-ce qu'on pouvait l'appuyer? Alors, par exemple, très concrètement, voyant que l'affaire traînait au niveau policier, au niveau judiciaire, le comité contre le viol est donc intervenu sur ces deux terrains en écrivant des lettres, en demandant des entrevues, en retournant à Karl Vogt pour exiger des précisions de savoir où en était l'enquête, enfin toute une série de démarches de ce type qu'une femme seule, c'est évident, ne fera jamais. Parce que bon, je pense qu'on en parlera aussi, que ça veut dire quoi de s'affronter à ce genre d'institution. Puis tout l'autre aspect qu'on a fait par rapport aux choses plus générales, c'est de sortir aussi un certain nombre de publications qui donnent l'existence du comité contre le viol, de réagir par rapport à des inquiétudes et des tracasseries dont les femmes victimes ont été l'objet. On rappelle toute l'histoire sur Prenaville des graffitis, je pense qu'il faudra aussi qu'on en reparle. Là, le comité contre le viol a mené une action extrêmement forte et soutenue pour obtenir que, en fait, la justice ne puisse pas intervenir et en fait pénaliser des femmes qui ont subi une agression, enfin c'est plus qu'une agression, qui ont subi quelque chose d'innommable, on peut dire.
En fait, actuellement, la permanence fonctionne peut-être pas d'une manière idéale comme on aimerait qu'elle fonctionne, parce que jusqu'à maintenant, ce sont plutôt des femmes qu'on connaissait qui se sont adressées à nous. Et je pense que, disons, ce serait bien que le comité soit suffisamment ouvert pour que, effectivement, toute femme qui soit agressée par un viol ou par des violences puisse venir vers nous, soit nous téléphoner le jeudi soir. Et on a parlé à l'intérieur du comité de faire une permanence téléphonique qui soit plus largement ouverte que simplement le jeudi. Bon, pour l'instant, c'est en discussion, mais je pense que ce serait une bonne chose de le faire. Pour que, effectivement, les femmes sortent de plus en plus de leur ghetto de silence chaque fois qu'elles ont été agressées. Et il faut vraiment que toutes ces histoires sortent publiquement pour vraiment trouver des moyens de riposte efficaces face à toute agression, quelle qu'elle soit, envers les femmes.
Tu parles d'une permanence téléphonique. Est-ce que vous pouvez donner le téléphone de cette permanence?
Ben, pour l'instant, disons, ce qui fonctionne, c'est le jeudi soir au Centre Femmes. C'est donc le boulevard Saint-Georges, 5 boulevard Saint-Georges, à partir de 21h. Et le numéro de téléphone, il arrive, le numéro de téléphone arrive.
Je précise que c'est donc à Genève, le 5 boulevard Saint-Georges, à Genève. C'est tout près des flics, pour celles qui ne le savent pas encore. Et donc, vous pouvez téléphoner au 29 22 98, les jeudis soirs. C'est là que se tient la permanence des femmes contre le viol, à partir de 21h.
Ou alors venir carrément, mais bon, je pense qu'effectivement, c'est une démarche qui doit être difficile pour des femmes qui ne connaissent personne d'entre nous, soit de téléphoner, soit de venir et de raconter leur histoire.
Je pense que c'est un point très important que tu as souligné, le fait que par rapport au viol et aux violences privées et individualisées qui sont les violences contre les femmes, il faut effectivement, la première étape, c'est de le rendre public, parce qu'on ne se rend pas compte de la quantité folle de coups et de viols que subissent les femmes en silence, sans jamais en parler. Et je pense que si les chiffres sortaient, ça ferait peur même aux hommes, parce qu'ils se rendraient compte à ce moment-là que c'est plus le fait de quelques fous, mais que c'est vraiment un fait social et que parfois ça prend des aspects de génocide. C'est vraiment une guerre contre les femmes.
C'est cet aspect de la question qui fait qu'on pousse plutôt les femmes à porter plainte, justement pour rendre ces viols publics, tout en sachant les limites que comporte un procès.
Et puis je pense que pour la femme qui a subi cette violence, la première étape qui est d'en parler peut être une étape aussi qui lui fait du bien, en quelque sorte, à elle aussi, au niveau individuel.
Bon, disons notre position par rapport à la justice. Effectivement, on a une position très critique parce qu'on sait très bien comment se passent les procès, on sait très bien comment se passent les dépôts de plaintes. Et voilà, on en parlera après.
Oui, je pense que de ce problème des procès, on en parlera plus en détail après. On va mettre un peu de musique.
La petite fille avait des tresses de satin, des rubans bleus et roses qui jouaient dans ses cheveux, des notes de musique suspendues aux oreilles, qui tintinabulaient, qui tintinabulaient. Elle attrapait dans son tablier des nuages en chocolat et franchissait les ruisseaux sur les ponts en pain d'épice. Elle s'est arrêtée, elle m'a regardé, elle m'a demandé, dis-moi pourquoi tu cries, dis-moi pourquoi tu cries, dis-moi pourquoi tu cries, dis-moi pourquoi tu cries. La petite fille m'a dit, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont arraché l'arbre de mon jardin, ils ont pris l'oiseau qui venait sur mes mains, et l'ont mis en cage, et l'ont mis en cage. La petite fille a accroché toutes ses larmes aux pétales froissés d'une fleur meurtrie, mais ça n'a pas suffi à lui rendre la vie. Alors elle m'a dit, je sais pourquoi tu cries, 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 oh s'il te plaît, crie pour moi. Crie pour moi, crie pour moi, crie pour moi. Come on.
Donc c'est la pleine lune. Nous sommes en train de discuter avec le comité contre le viol, un groupe de femmes de Genève. Vous pouvez nous téléphoner au 20 01 93 en faisant le préfixe 023 depuis Genève. Si vous avez des témoignages à donner, si vous avez des informations à demander ou si vous avez quelques commentaires qui soient à faire. Vous avez mentionné donc que vous êtes le comité s'est formé, ce groupe de femmes vous êtes réunies et vous avez décidé de mener cette action contre le viol à partir de ce fait terrible qui a eu lieu, je crois, en octobre 81, de ce viol collectif de deux occupantes de Prénaville. Est-ce que vous pouvez peut-être raconter un peu cette histoire, resituer un peu ces faits?
Bon, je crois que... Enfin, il me semble que tout le monde devrait avoir présent à l'esprit ce qui s'était passé donc cette nuit-là. La bande des pharaons donc avait débarqué premièrement à la rue Argan, qui était donc dans la volonté de saccager une maison occupée déjà depuis presque une année. Ce qu'ils avaient fait d'ailleurs, sous prétexte de casser du pain, que j'en sais rien quoi. À partir de là, estimant qu'ils n'avaient pas assouvi leur violence ou quoi que ce soit, avaient décidé de traverser la ville entière. Il faut bien le voir, ils sont partis de la rue Argan pour aller jusqu'aux eaux vives, pour aller casser une autre maison occupée, celle de Prénaville. Et à Prénaville, il y avait deux femmes qui étaient là, qui dormaient, qui étaient dans leur appartement. Ils sont entrés dans cet appartement. Et ils étaient 15, et bon, à 15, ils ont violé ces deux femmes à deux reprises. C'est-à-dire qu'ils sont venus une première fois, ils sont repartis, ils sont revenus une deuxième fois. Les deux femmes ont évidemment immédiatement mis au courant les autres occupants de la maison quand les autres occupants sont revenus. Oui, je signale que ça s'est passé au moment où il y avait une fête des occupants, une fête des mouvements de quartier aux grottes. Et en fait, les pharaons ont profité du fait que les appartements occupés étaient vides pour venir faire leur saccage et leur viol. Et le lendemain, ces deux femmes ont donc immédiatement mis au courant tous les occupants de la maison. Ça s'est très vite étendu à tout le mouvement de quartier, tout ça. Et bon, tout de suite, on a été plusieurs femmes, en fait, à réagir très violemment sur cette histoire, puisque, ces deux femmes avaient subi quelque chose d'absolument épouvantable et qu'on se sentait, en fait, toutes mises en cause dans cette affaire, puisque c'était à la fois dirigé contre des femmes, mais c'était également dirigé contre des femmes qui avaient marqué publiquement un choix de vie, un choix de position, enfin de position dans la vie quotidienne. Et donc c'est vrai que ça nous tenait beaucoup plus aux tripes, peut-être, si on peut dire, je sais pas, mais j'entends, on était immédiatement touchés par cette affaire. À partir de ce moment-là, tout le mouvement occupant, quartier, femmes, en fait, s'est mobilisé autour de cette histoire, tant sur le fait du viol, bien sûr, mais également sur ce que pouvait représenter les descentes des pharaons, ce que pouvait représenter dans ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place à Genève, c'est-à-dire une autre forme de vie, c'est-à-dire des logements qui conviennent, des logements abordables et tout ça, une vie de femmes qui puissent se vivre tous les jours et ouvertement. Et en fait, là, il s'est créé immédiatement un immense mouvement autour de toute cette affaire Prénaville. Et conférences de presse, manifestations, enfin bon, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et ce qui a été en fait frappant et absolument enrageant et qui nous mettait hors de nous, c'est qu'en fait, ces deux femmes, le dimanche soir, donc c'est passé dans la nuit du samedi au dimanche, le dimanche soir, elles se sont rendues accompagnées de représentants des mouvements de quartier et de femmes à Karl Vogt pour déposer plainte, et elles se sont fait renvoyer sous prétexte d'heure tardive, personne pour taper à la machine. Enfin, elles se sont fait vraiment traiter plus bas que terre. Visiblement, on accumulait le fait une femme violée, d'ici qu'elle arrive à se faire entendre, c'est vraiment pas simple. Mais en plus, comme elles étaient squatteuses, évidemment, elles n'avaient que ce qu'elles méritaient selon ce qui était dit. Et la police, le lendemain, ces deux femmes sont retournées de nouveau accompagnées par des femmes et des représentants des mouvements de quartier pour déposer plainte. Là, elles ont été entendues. Je pense qu'on parlera plus tard aussi de qu'est-ce que ça signifie pour une femme d'aller poser plainte, parce que on subit toute une morale et tout un discours absolument épouvantable. Et bon, malgré ça, une semaine après, pratiquement, bien qu'on ait dit donc, que c'était les pharaons, qu'on ait pu donner un certain nombre de noms et tout ça immédiatement, une semaine après, rien n'avait bougé, la police n'avait évidemment entrepris aucune enquête, rien du tout. Et il a fallu une conférence de presse qui réunissait, je ne me souviens plus très bien, mais je crois, 22 organisations, pour qu'en fait, la police se sente cette fois attaquée et se mette à bouger. Alors... Bon, c'est tout un enchaînement qui, visiblement, nous a fait proposer, enfin, voir quelle était la possibilité de pouvoir commencer à organiser des femmes autour de ces questions de viol, de violence, qui commençaient à prendre des dimensions absolument invraisemblables. D'ailleurs, l'enquête s'est donc déroulée, il y a eu un certain nombre d'arrestations, ils ont été pratiquement tous arrêtés, mais la grande partie, la grande majorité a été relâchée dans la semaine qui a suivi leur arrestation. Ce qui veut dire qu'ils ont été pratiquement blanchis, qu'on retient sous prétexte qu'ils n'étaient pas venus deux fois, c'est-à-dire s'il y en a un, par exemple, on peut citer des noms, par exemple le monsieur Yeni qui ensuite va proclamer son innocence partout et son civisme et son rôle de père, lui il n'est pas venu deux fois après Naville, il y est venu qu'une fois, alors c'est pas suffisant pour en fait enquêter plus loin sur son compte et pour l'inquiéter plus longtemps que quelques jours qu'il a passé à Chandelon avec ses copains. Et toute l'instruction ensuite, alors c'est là aussi on s'est rendu compte en fait vraiment des limites de la justice, c'est qu'en fait toute l'instruction a été basée sur d'abord ce qu'on appelle les présomptions d'innocence, c'est-à-dire qu'ils sont présupposés innocents et en fait c'est la femme, c'est donc les deux femmes de Prenaville qui devaient systématiquement prouver qu'elles avaient été violées. Et en plus, bon, ça c'est une chose très importante, c'est qu'en fait ce laxisme par rapport à une bande pareille, que chacun connaît parce que ça fait des années qu'ils sévissent dans cette ville, ils ont sévi entre eux, bon, ils se sont entretués entre eux parce qu'il y a eu un crime en tout cas, et puis ils ont déjà certainement passablement violé, mais en plus, bon, des bagarres continuelles, des genres de choses, ils sont connus, et en fait, c'est incroyable que ces gens aient pu courir aussi longtemps dans la ville sans qu'on les inquiète, sans qu'on les recherche. Il a fallu, je vous rappelle, plus d'une semaine avant qu'on en interroge un, puis ensuite les autres. Et puis qu'on les relâche aussi impunément en disant qu'il n'y avait pas de risque de récidive, quoi que ce soit. En fait, ces types, les pharaons, n'ont pas hésité. À partir du moment où ils ont été relâchés, ils sont revenus à Argan à plusieurs reprises pour narguer. Ils ont y compris proféré des menaces. Donc, contre les deux femmes violées, ça va de soi, c'est clair. Si vous dites que quoi que ce soit, vous casse la gueule. Enfin, tout ce genre de choses a soi-disant pas pesé dans la balance... au niveau judiciaire, c'est-à-dire qu'on n'en tient pas compte. Ce qui a fait dire...
Deux mois après, il retabassait une femme et en fait, on n'a jamais pu joindre les deux affaires. Faire la jonction au niveau juridique entre le tabassage et le viol de Prenaville, alors que des éléments des pharaons étaient présents dans les deux histoires.
Donc il y a eu récidive, quoi. Il y a une chose qu'on pourrait ajouter aussi, c'est dans quelle mesure il n'y a pas une collusion entre l'État et les pharaons, une chose qui est claire, c'est que c'est le même régisseur qui s'occupe de la rue Argan et qui s'occupe de Prenaville. Alors évidemment, on n'a pas de preuve que c'est les régisseurs qui ont envoyé la bande des pharaons, mais enfin, il y a quand même des suppositions possibles à ce niveau-là.
On m'avait dit aussi que, je crois, un des grands-pères de... L'un des pharaons avait payé la caution de Chamet, qui était justement le régisseur, l'associé de Thévenot, qui est le régisseur de ces deux immeubles. Donc il y aurait aussi des affaires de famille.
Ouais. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, je crois que le mouvement qui s'est créé autour de Prenaville a immédiatement dénoncé en fait l'impunité dont jouissait la bande des pharaons. C'est clair qu'au niveau purement policiers, judiciaires, enfin répressifs, c'est clair que ces gens jouissent d'une impunité. Donc, il n'y a pas 36 000 histoires. C'est vrai que d'un certain côté, en fait, les pharaons, ils sont utiles du point de vue du pouvoir, on leur voit une quelconque utilité. Et je crois que, bon, si on commence à fouiller dans la petite histoire, dans l'histoire des pharaons, c'est clair, je rappelle qu'il y en a un, son père, est donc... responsable de la sécurité à Chandelon,
Un autre, il a fait un apprentissage de flic. Il a exercé le métier pendant un mois ou deux mois, je ne sais plus. Et ensuite, il était, je ne sais pas, incompatibilité d'humeur avec son chef. Alors bon, il s'est retiré. Enfin bon, il y a toute une série de choses comme ça. Un autre, son père travaille au contrôle de l'habitant. Et comme par hasard, ces trois que j'ai nommés, dans l'affaire des graffitis qui ont été faits sur leur maison pour les dénoncer, c'est ces trois qui ont déposé plainte. Alors chacun pense ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'on peut en tout cas pas nous empêcher et on peut pas nous attaquer de diffamation quand on dit que ces gens-là, en fait, jouissent d'une impunité, jouissent d'un laisser-faire que personne d'autre ne peut avoir. Enfin, nous, le jour où on va écrire contre les murs, on se fait convoquer. Le jour où on squatte, on se fait foutre dehors. Enfin, bon, il y a vraiment une distorsion entre les modes de répression que... Bon, personne ne peut nous attaquer sur la diffamation quand on dit le pouvoir laisse faire les pharaons, les bandes comme les pharaons. Et ça continue.
Une petite musique qui leur ressemble, l'ouverture de Guillaume Tell d'Orange Mécanique. Vous êtes toujours sur Radio Pleine Lune, Radio Zone 101,4. Vous pouvez nous téléphoner au 20 01 93 en faisant le préfixe 023 depuis Genève. Nous sommes donc en train de discuter avec les femmes du comité contre le viol. Vous nous avez raconté comment vous vous êtes... donc qu'est-ce qui vous a le fait, donc ce viol collectif par les pharaons, par cette bande des pharaons, donc viol sur deux occupantes, qui a suscité une colère immense, d'ailleurs, pas seulement chez vous, d'ailleurs, chez beaucoup de gens à Genève, pas seulement chez les femmes. Mais donc à partir de là, vous avez donc constitué le comité contre le viol. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelles ont été quelques actions de ce comité contre le viol jusqu'à maintenant?
Bon, il y a eu effectivement des graffitis qui ont été mis sur les maisons des violeurs en dénonçant publiquement les violeurs. Je précise que ce n'est pas le comité qui a fait ces graffitis. Mais ce qu'il y a eu, c'est que ce sont les deux femmes de Prénaville qui ont dû répondre de ces graffitis. C'est-à-dire...
Qu'est-ce que c'était ces graffitis?
Eh bien, ça dénonce. Bon, mais ça dénonçait les violeurs, c'était leur nom, en mettant ici habite ou ici travaille, machin, enfin les noms, avec c'est un violeur. Et donc les violeurs ont déposé plainte contre diffamation.
Il y a encore d'ailleurs en ligne.
Ah, ouais. Et là-dessus, donc ce sont les deux femmes qui ont été convoquées pour une enquête. Sur ce, les avocates ont écrit à la... C'est Madame la juge Carole Barbet qui s'est occupée de cette affaire. Donc les deux avocates ont écrit en disant que ce n'était absolument pas à ces deux femmes de venir parler sur cette histoire, parce que c'était vraiment les mettre dans une situation où en fait elles sont victimes à un moment donné. Et alors nous...
Coupables, oui, pardon. C'est-à-dire qu'ils ont fait une enquête plus approfondie pour ces graffitis que pour les viols eux-mêmes.
Presque, oui. C'est presque à dire comme ça. Alors là, nous, on a écrit une première lettre à la juge qui avait été signée par 200 femmes, s'indignant sur ce procédé. Et Madame la juge Barbet a continué de convoquer. Donc, à la première convocation, les femmes ne se sont pas présentées. Il y a une deuxième convocation avec mandat de comparution. Donc, ça signifie que ces deux femmes pouvaient être cherchées sur leur lieu de travail par les flics, par la police. Et alors là, on a réagi en écrivant à nouveau une lettre d'indignation. Et cette lettre a été signée par 22 organisations qui nous ont soutenues. La convocation a été envoyée avec le mandat de comparution. Et alors là, nous, on s'est organisé, c'est-à-dire qu'on avait fait un genre de meeting devant le palais de justice. On était à peu près une vingtaine avec les deux femmes. Et il y a... Pardon ?
On est allé voir le procureur.
Ah oui, avant...
Beaucoup de démarches, beaucoup de lettres. Hein. Vas-y.
Oui. C'est vrai, avant, on est allé voir le procureur général pour qu'il fasse pression sur la juge pour qu'elle retire, en fait, cette convocation. Mais ça, on est allé voir la veille, le procureur général. Et le lendemain, donc, on avait réuni à peu près une vingtaine de personnes. Et on est allé voir la juge en lui disant que, voilà, les femmes sont là, veuillez mettre à exécution votre mandat de comparution. Alors là, en fait, elle a été d'accord de nous entendre. Alors, on a pu parler des graffitis comme étant disons, une légitime défense face à ces viols. Et là, elle a pris une déposition. Et en fait, elle voulait nous rendre, nous, comité contre viol, responsables de ces graffitis. Et en fait, on lui a fait corriger le procès-verbal en disant finalement, c'était pas à nous. Et puis qu'en fait, le problème, il ne se situait pas là. Et puis, finalement, l'affaire s'est enterrée comme ça, pour l'instant. Mais il y a eu...
Oui, par rapport à ça, les bruits courent que les pharaons auraient donc déposé recours contre la décision de la juge Barbet. C'est-à-dire qu'ils estiment évidemment inacceptable qu'elle ait clos l'affaire de cette manière. Bon, je crois qu'ils estiment même inacceptable qu'elle n'ait pas poursuivi les deux femmes de Prenaville plus loin. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas outrepassé tous les moyens de pression, comme ils disent, qu'on a utilisé. Oui, ça, je trouve que c'est un truc qu'il faut dire. C'est qu'en fait, tant fois le procureur que Madame Barbet... En fait, estime qu'on utilise des moyens de pression absolument inacceptables. Et selon M. Foy, si c'était n'importe quel autre groupe, que ce soit, il nous a cité des régisseurs, il nous a cité je ne sais plus trop quoi, enfin plusieurs autres groupes comme ça, qui avaient utilisé les mêmes moyens de pression qu'on a utilisés, et faisaient référence à des conférences de presse en particulier, c'est-à-dire de rendre publiques les affaires, il y a longtemps que lui serait intervenu pour dénoncer nos tentatives d'infléchir la justice. Alors je crois que, bon, c'est un truc qu'il faut... C'est vrai qu'ils essayent aussi, nous, de nous intimider, en fait, par un pouvoir qu'ils ont, et c'est indéniable, c'est eux qui l'ont, et c'est vrai.
Ce qu'il faut dire encore, c'est que, bon, l'histoire de la juge, la Carole Barbet, en fait, elle nous a prise comme porte-parole pour ensuite aller dire aux deux femmes de Prenaville, plus à tout le mouvement de solidarité qui s'était fait, d'arrêter avec ces histoires de graffiti. Et en plus, elle nous a dit qu'il y avait une tentative donc de diffamation. Sur ce, on a répondu, c'est pas de la diffamation du fait que ce sont vraiment des violeurs, donc c'est pas diffamatoire d'écrire machin habite ici, et c'est un violeur, donc ça c'est pas diffamatoire. Mais elle nous a dit sur une maison, il y a eu un nom qui a été écrit, et en fait, c'était pas le nom du violeur. Et en fait.